Ce soir, nous allons crypter. Vous attendez ? De ma pauvre voix. Vous me direz si vous entendez. Rien du tout. Non, ça marche pas.
Ça marche pas. Mais par les stress après.
Ce soir, nous allons voir le problème de la connaissance philosophique et le problème de la logique, c'est-à-dire la naissance de la logique au service de la philosophie et comment progressivement la logique s'est confondue avec la pensée philosophique. Ce problème très important qui est arrivé au XIVe siècle avec Occam. Alors, la logique est née avec Aristote. Tout le monde reconnaît qu'Aristote est le grand-père de la logique, d'une certaine logique. Parce que, de fait, il y a plusieurs logiques diverses qui sont nées. La dernière, c'est la logique mathématique, qu'on appelle comme ça, ou la logique symbolique. On a le temps d'en dire un petit mot au terme. Et au XIVe siècle, avec Occam, donc un franciscain, théologien, confond la philosophie, la métaphysique et la logique. Il les bloque, il ramène la philosophie à la logique. Il considère qu'il n'y a qu'une seule chose qui est importante, c'est la logique. Il dit dans son Organone, un gros bouquin énorme, en latin, qui vient d'être réédité, avant c'était uniquement encore la vieille édition, il nous dit au début que « mes pauvres confrères théologiens sont dans une confusion très grande parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la logique. » Alors pour eux, il écrit une grosse logique et il reprend toute la logique d'Aristote. Mais il ne voit pas qu'en faisant ça, il ramène toute la pensée métaphysique à la logique. Et à partir de là, on peut dire que la scolastique décadente a continué de faire ce blocage, cette confusion entre la pensée philosophique et la logique, qui, je crois, est désastreux pour la philosophie. Je voudrais vous montrer un peu ces différents points qui sont, je crois, importants. Alors, la naissance de la logique avec Aristote. Comment naît la logique ? Nous devons tous assister à la naissance de la logique en réfléchissant sur ce problème de l'abstraction. Quand vous êtes dans l'expérience immédiate de la réalité, vous décrivez la réalité. Au niveau descriptif, au niveau de l'expérience, il n'y a pas de logique. Vous décrivez. Il y a une connaissance qui peut être plus ou moins parfaite, mais vous écrivez. C'est lorsque vous commencez à abstraire. L'abstraction se fait toujours à différents niveaux. Il y a deux grands niveaux d'abstraction. Le premier niveau d'abstraction, vous en êtes inconscient. Quand vous parlez, par exemple, de blanc, je prends toujours ce fameux exemple parce qu'il est très facile à comprendre. Le mur est blanc. Le visage est blanc. Vous voyez donc que blanc, comme qualité sensible, provient d'une quantité d'expériences, jusqu'à la dernière expérience que vous pouvez faire pour toutes les propagandes qu'on peut faire, le blanc absolu. ce produit merveilleux qui vous permettra d'avoir un linge absolument blanc. Bon, ça fait partie, si vous voulez, de cette abstraction. Personne d'entre nous ne peut se rappeler le moment où blanc est devenu pour lui une signification particulière. J'ai demandé à des psychanalystes pour les ennuyer, parce que je savais d'avance qu'ils ne pourraient pas me le dire. Ils disent, on n'y a jamais pensé. C'est dommage, parce que vous essayez de comprendre un peu les confusions qui peuvent naître en nous. Eh bien, il y a un moment, on a pensé blanc. Il y a un moment où on a pensé animal. Il y a un moment où on a pensé bipède. Alors, je sais très bien, pour chacun d'entre nous, le problème se situe de cette manière, c'est que nous avons d'abord reçu des mots avant de retrouver dans la réalité l'expérience. On a appris un langage. Dans le langage, on a appris blanc, rouge, noir, bipède. Quand vous apprenez une nouvelle langue, c'est ce que vous faites. Donc, le langage va beaucoup plus vite que l'expérience. Et tant que vous restez dans le langage, vous n'expliquez rien. Toujours, hein, le petit gosse, quand il voit le TGV arriver, il dit, qu'est-ce que c'est ? La mère dit locomotive. Vous comprenez bien que le mot n'explique rien. Votre petit gosse, s'il est intelligent, continue de dire qu'est-ce que c'est qu'une locomotive ? Et alors à ce moment-là, la mère est un peu coincée. Alors elle essaie d'expliquer autant qu'elle peut ce que c'est qu'une locomotive. La plupart du temps, quand on interroge, on met un mot. Et le mot n'explique rien. Le mot, dans la perspective d'Aristote, c'est comme la monnaie par rapport au troc. Avant le commerce où il y avait la monnaie, avant la monnaie, il y avait le troc. Alors là, on était devant des réalités de valeur plus ou moins égales. Pour faire les échanges plus rapidement, on a inventé la monnaie. Le langage, c'est ce qui permet de communiquer plus vite. Autrement, on serait obligé d'amener derrière soi des quantités de choses pour montrer telle, telle chose, comme ça. Et on indiquerait. Grâce au langage, on dépasse le troc. Et on arrive dans une connaissance qui peut se faire beaucoup plus rapidement. Mais le langage, et quand on reste uniquement au niveau du langage, au bout d'un certain temps, on tombe dans une cérébralisation. On a perdu le contact avec le réel. Et perdre le contact avec le réel, c'est quand même terrible. Parce que nous ne pensons pas pour connaître le langage. On pense pour connaître la réalité. C'est pas parce que vous dites animal que vous savez ce que c'est que l'animal. Vous devez avoir fait l'anatomie de l'animal, du petit oiseau ou du gros cochon, pour connaître tout ce qu'il y a dedans. Autrement, vous ne connaissez pas. Et c'est le jour où vous avez fait l'anatomie, vous avez analysé, divisé, vous avez fait des comparaisons. Un livre qui est palpitant à lire, c'est le livre des parties des animaux d'Aristote. Ça se lit comme un roman. Parce que c'est le point de départ de l'anatomie. C'est encore très, 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 j'allais dire, très naïf. Mais c'est merveilleux. Parce que c'est le point de départ de toutes les analyses biologiques. Le père d'Aristote était médecin, il ne faut pas l'oublier. Et donc il avait ce souci de comprendre que dans le vivant, on retrouvait analogiquement, proportionnellement, des choses très semblables. Il le fait pour les animaux, parce que ça l'intéresse particulièrement. Et tout ça en vue de connaître l'homme. Pour se poser la question, comment se fait-il que l'homme a la station droite ? C'est premier qui s'est posé la question. Comment se fait-il que l'homme ait sa soif? Alors, il dit des choses très simples. C'est pour libérer les pattes et avoir des mains. C'est bien évident. Si on marchait à quatre pattes, nos mains n'iraient pas. Le jour où on a découvert, hein, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais le jour où on a découvert qu'on pouvait se tenir debout, on a libéré nos pattes de devant pour devenir alors des mains. Et elles se sont développées comme des mains. Prendre les outils, être des gens beaucoup plus capables de mesurer les choses et de transformer la matière. Le mot remplace la réalité, mais ne doit jamais être un mur qui cache la réalité. Le mot doit signaler la réalité et conduire vers la réalité. Donc le mot, c'est uniquement pour l'usage. Et c'est pour ça que saint Thomas dit, à la suite d'Aristote, que le philosophe ne peut pas philosopher sur les mots et le langage, mais s'il philosophe sur la réalité exprimée par les mots. Ça, c'est très important. La philologie est une science sur le langage, et pas sur la réalité. C'est toute la différence avec la philosophie. La rhétorique regarde plus le langage que les mots. Un bon rhéteur, c'est celui qui joue un feu d'artifice avec les mots. Il est patiégeant. Il séduit. Il persuade. C'est plus facile de séduire avec des mots que par la réalité. Donc, il faut comprendre l'écart qui existe entre les mots et la réalité, pour comprendre ce que c'est que l'abstraction. L'intelligence abstraite, et ceci est manifesté dans le langage. Qu'est-ce que c'est qu'abstraire? C'est laisser tomber des quantités de choses secondaires pour saisir ce qu'il y a d'essentiel. Devant toute espèce d'animaux, on dira progressivement « animal ». C'est difficile de définir ce que c'est qu'un animal. La différence entre l'animal et la plante, ce sont des vivants qui ont des degrés différents, des perfections différentes. La plante, l'animal, l'homme. Et l'homme est aussi un animal. Il est plus, il a l'esprit. Alors vous avez ces trois degrés. Puis en dessous de la plante, il y avait le monde physique. Le monde physique, ben, il est ordonné vers le vivant. Et certains diront, oh, il y a une continuité entre le monde physique et le vivant. Et d'autres diront, il y a une continuité entre l'animal et l'homme. Vous voyez, c'est très intéressant de voir le phénomène de l'abstraction et la manière dont on essaie de retrouver la continuité. Parce que l'abstraction, c'est l'intelligence qui l'a fait instinctivement. Vous ne savez pas à quel moment vous êtes passé de la quantité d'expérience du chien, du chat, de la poule, de n'importe quel des animaux, et puis dire animal. Animal a une signification universelle. Et c'est le jour où on commence à réfléchir sur l'universel que la logique naît. C'est le jour où on réfléchit sur l'universel que la logique naît. La signification de animal, c'est d'être quelque chose d'universel. La signification de la plante, c'est quelque chose d'universel. La signification de rationnel, c'est aussi quelque chose d'universel. La signification de blanc, c'est aussi universel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'universel ? Et comment pouvons-nous voir la diversité des modes de l'universel? Et là, c'est la première question de la logique. Et c'est là où on assiste à la naissance de la logique. Et je crois ça très important. l'universel. Je vous donne la définition de saint Thomas, en bon disciple d'Aristote. Parce que, comme ça, je vous la donne en latin, c'est plus facile. En bon disciple d'Aristote. Et saint Thomas était un peu plus loin qu'Aristote dans ce domaine-là. Parce que saint Thomas s'est servi de toute la réflexion des Arabes. Les Arabes sont très forts pour la logique. Ils ont inventé le zéro. Ils sont très forts pour la logique. C'est très très curieux. Aristote invente la logique uniquement pour savoir ce que c'est que la science. Si l'universel n'existe pas, la science n'existe pas. Il a vu que ce qui est le fondement de la science, c'est l'universel. C'est quand même quelque chose d'assez grand. Et ça, tout le monde le reconnaît. Là, vous avez un œcuménisme philosophique. Ça, tout le monde est d'accord que Aristote, c'est celui qui, le premier, a réfléchi sur l'universel et a montré que l'universel, c'était une condition sine qua non pour que la science existe. Alors c'est pour ça que c'est intéressant de réfléchir sur l'universel. Saint Thomas nous dit que l'universel, il y a un dans universel. C'est unum ad multa. Unum ex multis. Unum in multa. Pas la peine de traduire. Hein. Là, voilà, c'est un. Ex multis. Ex. Donc, c'est l'un à partir du multiple. Le multiple, c'est les chats, les chiens, les petites bêtes. À partir de là, anima. Donc, on extrait du multiple quelque chose de commun, ce qui permet d'unir le multiple. Et c'est l'intelligence qui fait ça. La réalité, elle est dans le multiple. L'universel, vous ne l'avez jamais rencontré, heureusement. Vous avez rencontré des réalités singulières. Et l'universel, c'est l'intelligence qui le fait. C'est l'intelligence qui fait l'universel. Pourquoi fait-elle ça? Pourquoi l'intelligence a besoin, à partir du multiple, d'extraire ce qu'il y a de commun? En grec, on dit le tikkunon. C'est assez joli du latin. Le tikkunon, le quelque chose de commun, c'est là. De ce multiple. Qu'est-ce qui est commun entre la vache, le chien, le chat? La petite chose commune, là, du multiple. L'universel, c'est ad multa. Parce que, une fois que j'ai extrait cet unum, anima, pensez toujours à anima. C'est plus facile. C'est unum anima. Vous le réattribuez à chien. Ce chien est un animal. Ce chat est un animal. Ad multa. Donc cet unum, il est ordonné. Elle voit bien. Il prend bien du multiple, il retourne au multiple. Et il est dans le multiple, in multa. Expatible. C'est assez joli du reste. Il prend bien du multiple, il va vers le multiple, il est dans le multiple. C'est présent dans Aristote, mais c'est pas dit de façon aussi claire. Expatible. On ne peut pas dire mieux. C'est là où le latin a une sobriété étonnante. Il dit ça admirablement. Le latin est beaucoup plus abstrait que le grec. Vous savez bien, le grec, c'est une langue extraordinairement concrète. Le latin est une langue plus juridique. Alors le point de vue juridique est toujours plus abstrait. Et c'est pour ça qu'il y a un danger, du reste. Il y a un danger. Le latin va convenir merveilleusement à la logique. Le latin, c'est sûr. Le français, c'est entre les deux. C'est curieux. Il y a un phénomène de langue et donc d'intelligence derrière. Le latin a besoin d'unification. Il unifie, c'était avec l'Empire romain. Tandis que le grec et la Grèce est née dans la multiplicité. C'est l'ouverture vers l'océan, la multiple. C'est tout à fait différent comme génie. Alors, donc, voilà le nom. L'universel, c'est donc l'un du multiple, vers le multiple, dans le multiple. Je vous disais, l'universel, c'est ce que l'intelligence est capable de faire. Et c'est pour ça que saint Thomas dira, l'universel, c'est un être de raison. Ens rationis. Ça, c'est saint Thomas. C'est même pas les arabes, hein, c'est propre à saint Thomas. Il a inventé cette expression très très jolie. Ens rationis. C'est-à-dire l'être de raison. C'est un être qui n'existe que dans mon intelligence. Universel. Il n'existe pas dans la réalité. Il est dans la réalité fondamentalement, puisqu'il provient de la réalité. Mais il n'existe que dans l'intelligence. Formellement, il n'existe que dans l'intelligence. C'est donc l'intelligence qui le crée. La seule chose que vous êtes capable de créer, c'est des êtres de raison. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous créez des êtres de raison. L'universel est donc une relation. Cet être, c'est une relation. Une relation de raison. C'est une relation puisque c'est la relation de l'un vers le multiple. C'est une relation quand vous mettez un et multiple. Dans la réalité, le multiple n'est pas un et l'un n'est pas le multiple. Dans la réalité, il y a une opposition. Ce qui est très curieux, c'est que l'intelligence unit l'un et le multiple. Dans une relation, par exemple. Et l'intelligence est capable d'unir les deux. Autrement dit, l'intelligence se met au-delà de cette division de l'un et du multiple pour saisir par l'universel quelque chose qui unit l'un et le multiple. Parce que dans la réalité, c'est évident que l'un veut dire quelque chose d'indivisé et le multiple, c'est quelque chose de divisé. Donc c'est contradictoire. Vous ne pouvez pas dire que l'un et le multiple sont ensemble. L'universel est donc au-delà de cette contradiction de l'un et du multiple. Et elle fait comme une synthèse de l'un et du multiple. Et donc elle fait comme une synthèse d'une contradiction qui se trouve dans la réalité. C'est très important de comprendre cela, parce que ça fait comprendre pourquoi dans la pensée contemporaine, à partir de Hegel, on a le désir de dépasser la contradiction. La logique naît à partir de l'universel. Et l'universel, c'est un au-delà de cette contradiction de l'un et du multiple. Donc, il y a quelque chose, hein, qui est très intéressant à saisir, c'est que l'universel n'existe qu'en unissant les deux. Je ne vais pas plus loin. C'est une pierre battante, ça. Mais c'est intéressant à noter. L'universel, c'est donc un être de raison qui se fond dans la réalité. C'est pas n'importe quel être de raison.
Parce qu'il y a des êtres de raison qui n'ont aucun fondement dans la réalité. Mais les philosophes du Moyen-Âge, comme moi, prenaient toujours cet exemple de la montagne d'or. On a tous rêvé une montagne d'or. Pièces d'or, c'était la montagne d'or. C'est un rêve. Un rêve, c'est un être de raison. Sans fondement dans la réalité. Tout ce que vous imaginez, c'est ça, un fondement dans la réalité. L'être de raison, il a un fondement dans la réalité. Il exprime, il signifie quelque chose de réel. Sous un ordre universel. Donc vous voyez, cette relation de raison se fond dans la réalité. Quand je dis animal, la signification d'animal, c'est un être vivant qui a de la sensibilité. Parce que je crois que c'est ça, l'animal. Qui a une connaissance sensible. Tandis que la plante n'a pas de connaissance sensible. Tandis que l'animal a une connaissance sensible. Donc vous précisez la signification de l'animal. Et cette signification, elle vient de la réalité. L'animal, ce n'est pas un rêve. Non, l'animal existe. Fondamentalement, il existe. Ex nihilis. Il provient du multiple. Il est tout le temps. Il est dans le multiple. Donc quand je pense animal, je pense à une quantité de réalité qui existe. Et de cette quantité de réalité, j'ai extrait quelque chose d'essentiel. Une signification essentielle. J'ai extrait quelque chose. Quelle signification ? Vous voyez qu'il y a deux choses dans l'universel, et ça je crois que c'est très important à bien le saisir. L'universel a donc deux choses, la signification universelle. La signification de ce qui est universel, du concept universel ou du terme universel, la parole. Quelle signification ? Et puis il y a une fonction de l'universel. Elle est de toujours. L'universel comme tel, c'est ce qui est capable d'être attribué à l'identité individuelle. Donc il est admirable. Ça c'est la fonction. Et la signification, c'est ce que j'ai extrait du multiple. Donc je dirais signification ici, fonction ici. Et ici, l'identité avec le réel. Il se ramène au réel. C'est vrai, dans tout terme universel, dans tout concept universel, je peux dire qu'il y a une certaine signification. Bien fonction. Maintenant, comprenons que l'universel se présente à moi selon des modalités différentes, ce qui est aussi très important à souligner. On va prendre l'autre. Ça n'a pas d'importance. Diverses significations universelles. Diverses modalités universelles. L'universel se donne à moi selon le genre. Il y a un universel générique. Alors je n'ai pas l'humain pour que vous ayez un petit support imaginatif à l'humain. Universel fondamental. Puis vous avez l'universel de différences spécifiques. La diaphore, la différence. La différence spécifique, rationnelle. Et troisième universel, l'espèce. Leur propre. Quatrième universel. propre, prenez pour l'homme capable de rire. Capable de rire. L'animal n'est pas capable de rire. C'est de faire rire ça. On va imiter votre rire, mais on n'est pas capable de rire. Vous êtes quelqu'un qui ne rit jamais. Quelque chose qui va pas. Quelque chose qui va pas. Il faut dériver l'ennui. On va essayer de se dériver capable de rire. Vous pouvez être aussi capable d'apprendre la grammaire, la biologie. Si vous voulez, c'est une capacité. Mais j'aime mieux capable de rire. C'est plus significatif. C'est plus visible. Et cinquième, c'est l'accident. L'accident, une chose qui s'ajoute. Le mécano. Je prends toujours comme exemple. Le mécano. Il y a des grands étudiants qui n'ont pas le mécano. Des yeux bleus, des yeux gris. Je ne parle pas des choses que tu dis, c'est très bien. Mais en fond, c'est quand même même là, ça varie, il y a un élément artificiel qui vient compliquer l'histoire et qui fait que l'accident peut prendre des colorations différentes. Mais si vous voulez, le poids. Il pèse 110 kilos. Bon, c'est un accident, c'est pas une propriété. Accident, c'est bien. C'est quand même un petit peu lourd. 110 kilos. C'est. Bon. Vous avez une main, ce qui est très cool. Alors là, ça demanderait une réflexion très astucieuse. Vous avez là ce qu'on appelle. De manière classique, dans toute bonne logique, les prédicats. C'est pas les prédicaments. Les prédicaments, les catégories, les 10 catégories. Ici, vous avez les 5 prédicats. Votre intelligence, quand elle saisit la réalité, elle saisit selon 5 perspectives différentes. Et ça, indépendamment de votre volonté, c'est un fait. Quand vous voulez saisir quelque chose, que vous voulez connaître, vous avez 5 manières d'envelopper cette réalité. Votre filet a 5 manières d'envelopper la réalité que vous cherchez. Indépendamment de votre volonté. On retrouve ça dans toutes les langues. On retrouve ça dans toutes les pensées. Tout le monde, les cinq prédicats. Certains y réfléchissent, d'autres y réfléchissent. Donc nous sommes en face de 5 modalités d'universel. L'universel se présente à moi selon cette modalité. Vous voyez comme ce serait intéressant pour saisir la manière dont l'intelligence aborde le réel. Alors, c'est sûr, il n'y a pas de test là-dessus, mais c'est sûr que certaines formes d'intelligence sont beaucoup plus portées aux gens, d'autres à l'accident, d'autres comprennent. La différence de civil et d'espèce. Ça, c'est sûr. Vous voyez, les intelligences qui sont des intelligences qui ont tout de suite un sens très grand de la distinction des choses. Puis il y a des gens qui n'arrivent jamais à comprendre la distinction des choses. Tout est éternellement dans un brouillard. Tout, c'est quelque chose. Et quoi, quoi? C'est quelque chose. c'est le brouillard. Vous ne savez pas très bien qu'est-ce que c'est. C'est curieux, ces choses-là. Et dans le brouillard, vous voyez tout de suite la forme vague, puis de temps en temps la petite lumière. Alors, grâce à ça, il y a un petit feu rouge qui me fait que c'est quelque chose. Dans le brouillard, on voit très très bien ça. Alors là, ah, c'est propre. Tout de suite. Puis c'est un feu clignotant. Ou, encore mieux. Vous voyez, c'est très curieux. Mon intelligence humaine est ainsi faite que je capte la réalité. Mais comprenons bien qu'on sait que la différence entre psychique et l'espèce, la différence spécifique et l'espèce, je ne m'en sais que pour l'homme. Donc, seule philosophie qui regarde l'homme, c'est ce que c'est que la différence spécifique et l'espèce. Ce serait une manière très élégante, au plan logique, de distinguer la science de la philosophie. On ne l'a jamais fait, je ne comprends pas. C'est comme ça. Des choses comme ça. Des réalités qui ne sont pas l'homme. Vous ne savez pas exactement la différence spécifique. Quelle est la différence spécifique du rat? Quelle est la différence spécifique du chien? Il faudrait être dans le chien pour connaître la différence spécifique du chien. Je vois les propriétés. Je ne connais pas la différence spécifique. Je connais la différence spécifique de l'homme en disant rationnel. Je saisis ça. Et connaissant la différence spécifique, je connais l'espèce. Parce que la différence spécifique vient préciser le genre, déterminer le genre, toute l'espèce. Donc il faut bien comprendre que la différence spécifique et l'espèce, ce n'est que pour l'homme. C'est la seule fois où je connais vraiment la différence spécifique et l'espèce. Par rapport à ma connaissance de l'homme. C'est pas étonnant, parce que par rapport à la connaissance de l'homme, j'ai une situation unique. Je connais l'homme de l'intérieur. Vous connaissez jamais le chien de l'intérieur, même si vous commencez à aboyer. Je ne connaissais pas le chien de l'intérieur, c'est impossible. Je ne sais pas ce que c'est que le chien. Je projette de moi-même ce que doit être la passion du chien, bien sûr, du présent. Dit, c'est peut-être comme tout bien, mais il est tenté par ça, il y a pas de passion. Il est attiré par ça, il est pris par ça. Et quand vous êtes mordu par le chien, vous pensez à quelqu'un qui vous a mordu. Il dit, c'est pas étonnant, il m'en veut. Sinon, il ne vous en veut pas du tout. C'est sûrement pas. Une personne dimensionnée à vous manger, j'avoue, enfin, vous allez très bien ce que c'est. Alors, vous ne savez pas ce qu'est pour les autres animaux la différence spécifique de l'espèce. Ce n'est que pour l'homme. Donc, ce n'est que vrai qu'au niveau philosophique. Je dis ça tout de suite pour que vous ne cherchiez pas autre part par rapport à l'homme, la différence spécifique et l'espèce. Toute la science est basée sur le genre. Le propre et l'absent. Toutes nos connaissances scientifiques sont basées sur le genre, la différence entre le propre et l'accident. C'est très clair. Et ça montre qu'il y a dans la philosophie un regard qui va plus loin que n'importe quelle autre science. Évidemment, la philosophie est battue par rapport aux autres sciences du côté générique. Les sciences sont merveilleuses dans l'ordre de l'extension. Et elles étudient des précisions du genre que le philosophe ne fait pas. Mais le philosophe a un prix privilège particulier, c'est qu'il connaît l'ordre, du moins il cherche à connaître. Il cherche à connaître. Alors, maintenant, réfléchissons un peu sur ces cinq modalités. Parce que ces cinq modalités d'universel me font comprendre la manière dont l'intelligence abstrait. Elle abstrait de cinq manières différentes. Et sans que vous en ayez conscience, c'est ça qui est mieux. Il y a un inconscient philosophique radical. Vous avez tous quand même, vous avez tous une fois dans votre vie, animal, rationnel. L'homme, je le sais, capable de rire, et puis l'accident, la quantité, 110 kilos. Ou 60 kilos, c'est égal. Et non, c'est un accident. C'est un accident. La distance humaine, 60 kilos, c'est très bien. Quelquefois, la situation est limite. Quand vous pesez une poids plume, attention, elle est à 20 kilos, vous dira ça, très bien. Mais cet accident, ça caractérise pas quelqu'un. Vous n'allez pas avoir l'idée de mettre dans une classification tous les hommes de 110 kilos ensemble. Toutes les femmes de 50 kilos ensemble. Il y a des jeunes qui pèsent 110 kilos et il y a des brunes qui pèsent 110 kilos, c'est sûr. C'est tout à fait accidentel, ça ne regarde rien du tout. Alors comment se fait-il que mon intelligence a besoin d'abstraire? C'est un fait, hein. Aristote donne et après Aristote on a répété ça. Et on le répète encore aujourd'hui, sans savoir. Moi, je me suis posé la question, parce que ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi les cinq prédicats? Qu'est-ce que ça correspond comme forme d'intelligence? Les cinq prédicats, c'est l'intelligence face au réel. Comment l'intelligence face au réel saisit le réel? Regardons ces cinq prédicats. De comprendre pourquoi ces cinq modalités. C'est quand même intéressant, puisque là nous sommes en face de l'aspect tout à fait fondamental. Puisque c'est universel et que la science est une mot universel. Alors, le genre, c'est l'universel fondamental. J'allais dire, c'est l'universel œcuménique. Vous rassemblez le plus de choses possible. Et vous avez la tendance de vouloir rassembler le plus de choses possible, et pour ça, regardez le moins possible les différences. C'est pour ça qu'on dira que le genre a une extension la plus universelle. La connaissance la plus universelle. Et ça te dira que le genre se prend toujours ex parte matériel. Le genre se prend toujours du côté de la matière. C'est générique. Vous en avez, c'est l'œcuménisme, vous voyez. Dans l'œcuménisme, vous essayez de prendre le plus de personnes possible en déterminant le moins. Parce que si vous déterminez trop, ça va faire des oppositions. Alors vous êtes tous qui regardent un Dieu créateur. C'est générique. Mais ça enveloppe le plus de personnes possible. Tous ceux qui regardent ça. Donc la donnée la plus commune pourrait être dans la plus grande universalité. Et c'est pour ça que Jean se prend du côté de la matière, c'est-à-dire de la potentielle. Le moins de différence possible. La différence qui signifie au contraire. Ah, c'est juste l'inverse. C'est juste l'inverse. C'est l'aspect qualitatif. Et l'aspect qualitatif, substantif. cherchez pas du tout l'extension. Vous cherchez la signification la plus et la plus déterminante. C'est pour ça qu'on dira que la différence de signe se produit du côté de la forme.